Alors, je ne sais pas si moi je vais vous éclairer. Ce que je souhaite, c'est que ce soit l'Esprit Saint qui vous éclaire. Moi, je ne suis qu'un humble serviteur, donc que le Seigneur se débrouille. Hein. Voilà. Vous m'entendez, oui? Si vous ne m'entendez pas, ou si vous ne comprenez plus ce que je dis, parce que de temps en temps, je pars un peu en vrille, surtout vous levez la main, vous tapez, vous sifflez, vous faites quelque chose pour me ramener un peu sur terre. Voilà. Merci, tu es bonne. Alors déjà, je vous dis, c'est pas sûr que l'intervention elle dure une heure. Hein. Parce que moi, je ne suis pas appelé à beaucoup développer. J'avais un professeur qui me disait, quand tu parles, ça serait bien que tu mettes un peu de viande sur l'os, parce qu'en général, on n'a que l'os. Donc. Alors, quand j'ai vu arriver donc, le thème « Qui nous fera voir le bonheur ?», c'est vrai que, si je prenais mon papier, ça serait bien. J'ai pas le bon, ça commence bien. C'est pas grave. Qui nous fera voir le bonheur? C'est marrant parce que ça fait quand même déjà peut-être 3000 ans qu'on se pose la question. Hein. Parce que donc c'est tiré du psaume 4. Et le psaume 4, on peut imaginer qu'il a été écrit 400 ou 600 ans avant le Christ. Donc on se dit, c'est quand même bizarre que cette question, on se la pose encore 3000 ans après. Ça veut dire que quelque chose, eh bien, quelque chose de vivant est dans cette question. Peut-être que si on se pose encore cette question aujourd'hui, c'est parce que la réponse n'est pas évidente. Elle n'est pas donnée, je dirais, un peu comme si on passait un examen. Bon, ben, on se prépare à passer l'examen, le jour où on a son diplôme en poche, ben, c'est réglé. Apparemment, le bonheur, ben, c'est jamais réglé. On a toujours à cheminer, à vivre quelque chose pour grandir dans ce bonheur. Je vais y revenir. Qui nous fera voir le bonheur? 3000 ans qu'on se pose cette question-là, ça veut dire que quelque part on vit dans le malheur. Ça veut dire que quelque chose, il y a quelque chose de malheureux dans notre vie. Et c'est là où je me dis, ben c'est vrai que nous vivons quelque chose qui est de l'ordre d'une faille. Et je me servirai simplement de la Genèse pour revenir un peu au début de cette faille. On trouve ça dans ce mythe de la Genèse qui nous est donné, à travers d'abord Adam et Ève qui sont chassés du paradis. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement, c'est vrai que au cœur de cette faille, il y a cette communion avec Dieu qui joue plus tout à fait. On avait cet Adam et Ève qui étaient dans le paradis, et puis un jour, ils se sont ramassés un coup de pied dans le derrière, et ils sont partis voir ce qu'il y avait de l'autre côté. En gros, chacune d'entre nous, on a envie de vivre cette communion avec Dieu. Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a un écart, il y a quelque chose que nous avons à vivre, mais qui est à distance. Ça, c'est peut-être la première faille qui est inscrite dans notre humanité. Puis la deuxième, eh bien, c'est la complète, c'est Ève. Parce que ben, pour la création de la femme, de Ève en tout cas, eh bien, il a fallu enlever quelque chose à l'homme. Alors bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus, parce que c'est un autre sujet, mais vous voyez, quelque part, notre Adam, il lui manque quelque chose. Il y a une petite faille là aussi. Et pour que justement, pour qu'il puisse vivre en plénitude, eh bien, il va falloir qu'il retrouve son Ève. Et surtout, qu'ils vivent quelque chose ensemble. Deux choses, vous voyez, ce manque de communion avec Dieu que l'on trouve dans la Genèse, et puis en même temps cet homme qui n'est pas tout seul, mais qui, voilà, qui est un peu incomplet et qui a besoin de vivre quelque chose avec l'autre. Alors, nous avons tous ces failles. Nous avons tous ces failles. Et c'est pour ça qu'on se pose la question de qui nous fera voir le bonheur. Parce qu'il reste quand même en nous un vieux fond où on aimerait bien retrouver ce paradis perdu, où on aimerait bien être, voilà, être bien de nos baskets. Et alors, du coup, ça pose la question, ben, qu'est-ce que c'est que ce bonheur ? Mais je ne vous répondrai pas maintenant, parce que vous aurez la solution cet après-midi. Pas de chance. Si vous êtes venu pour ça, il faudra attendre encore un peu. Je veux simplement m'arrêter sur cette faille que nous vivons tous. Alors j'ai retenu au moins trois attitudes par rapport à cette faille. Je dis c'est important parce que suivant comment on vit cette faille, eh ben, on va avoir aussi une certaine recherche du bonheur. La première chose, première attitude, c'est de nier la faille. Non, Seigneur, aucun problème. Et du coup, je risque de vivre dans un rêve, comme si j'étais un ange. L'ennui, c'est que vous voyez bien qu'au plan humain, ben, quelque part, c'est pas tenable. Je peux nier avoir une faille, et dans ces cas-là, je vais vivre dans un monde d'illusions que je pourrais régler d'une manière ou d'une autre. Hein. La deuxième attitude, c'est de reconnaître cette faille. Mais cette faille, elle est tellement grande que, un peu comme une montagne, on se met au pied d'une montagne et on se dit « Oh, faut monter tout ça !» Et du coup, on est épuisé avant de commencer. Et du coup, ben c'est vrai que peut-être qu'on va avoir l'impression que vraiment notre vie, elle va se passer au bas de la montagne. Et du coup, on va se décourager, on va désespérer, on va avoir l'impression que tous les autres, ben, ils montent la montagne, mais nous, on ne peut pas. Du coup, on va les regarder monter, mais nous, on va vivre notre galère en bas de la montagne. On va peut-être s'installer un petit chez-soi bien tranquille en bas de la montagne. Vous savez, peut-être que vous faites de la montagne. Hein. De temps en temps, vous avez des refuges en montagne, des refuges qui sont habités. Bon, ben, ceux qui sont là, ils regardent les gens passer. Pour être au service, hein, mais ils regardent passer. Et nous, ben, peut-être que, voilà, en reconnaissant notre faille, peut-être la première attitude, bon, je laisse de côté le fait de nier la faille, mais en reconnaissant notre faille, la première chose, c'est de se dire, mais vraiment, le bonheur, en gros, c'est pas pour moi. La deuxième chose, et c'est très en vogue actuellement, c'est de vouloir combler la faille. On va trouver des bulldozers pour pouvoir trouver des poussées pour boucher le trou. En gros, derrière, c'est l'idée que ben, j'ai cette faille, je la vois, et il faut que je la comble. Alors c'est vrai que il y a une prière que vous aimez certainement très bien, mais qui est très dangereuse. C'est « Je vous salue Marie ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Pleine de grâce. Quelle image vous avez de ça ? Quand on dit cette parole-là, souvent on voit Marie avec la grâce qui déborde de partout. Et du coup, Marie, ben, elle est comblée. Comme s'il était rempli. Mais c'est là où, quand on prend le temps de contempler Marie, on s'aperçoit, mais on y reviendra cet après-midi, la grâce, elle ne remplit pas. La grâce, elle creuse. Et c'est pour ça que Marie, comblée de grâce, c'est non pas un tas de grâce. J'ai bien dit grâce, hein. Mais au contraire, Marie, elle est creusée pour devenir un berceau pour l'enfant Jésus. Et c'est une autre attitude, le combler de grâce. Mais on y reviendra cet après-midi. Mais je voulais juste, par rapport à ça, vous voyez, souvent l'image qu'on a, c'est combler de grâce. Du coup, Marie, elle n'a plus du tout aucun besoin, aucun... Elle est vraiment comblée. C'est l'histoire du paradis perdu. Ah, mon Dieu, le jour où je retournerai au paradis, plus de larmes, plus de... Oh, vraiment, ce sera le top. Et des fois, on cherche des paradis perdus. En gros, derrière, c'est un peu cette mélancolie de ne pas être un tout. Et c'est vrai qu'on a ça, on a un bon serveur aujourd'hui qui s'appelle les médias, et entre autres la pub. Parce que la pub va jouer là-dessus. Si vous voulez vraiment être un homme, il faut vous mettre la crème machin sur la tronche, et si vous ne bouffez pas tel truc et que vous n'êtes pas dans le... Vous ne serez pas vraiment cet homme ou cette femme du paradis perdu. Et la pub joue là-dessus. Elle veut, elle crée des besoins et elle veut les combler. L'ennui, c'est que vous en faites tous et nous en faisons tous l'expérience, c'est que tout ce qu'on essaye de nous vendre, peut-être que ça comble certains besoins, mais ça ne comble pas notre désir de bonheur. On vous donnera cet après-midi, où je mettrai à disposition peut-être avant le repas, parce que je les ai laissés là-haut. J'ai fait une feuille jaune avec des textes dessus que vous pourrez prendre, simplement pour méditer. Et entre autres, il y a une petite histoire. C'est juste histoire de réfléchir un peu. Donc la logique de la pub, ben c'est vrai que une invitation à combler, combler nos manques, combler, combler cette faille. Alors, il y a trois domaines dans lesquels on peut combler cette faille. Bon, la pub, c'est évident, c'est la question matérielle. On peut essayer de combler cette faille par des choses matérielles. Plus on peut. La deuxième chose, ça peut être de combler cette faille par le savoir, d'avoir une connaissance sur les choses, de se donner liste. Alors là, on retrouve, je reviens à mon mythe de la Genèse, on retrouve l'arbre de la connaissance. Et on veut avoir la prétention de tout savoir pour pouvoir combler, combler notre manque de savoir. Et puis, la quatrième chose, c'est la dimension spirituelle. Et c'est vrai que Dieu, ou la recherche de Dieu, ou d'une philosophie religieuse, peut être le prétexte de vouloir combler un manque. Moi, je suis très frappé parce que je reçois je croise un certain nombre de gens, par exemple, qui tombent dans l'ésotérisme et qui, sous couvert de mettre la main sur les esprits, bien petit à petit se font bouffer par les esprits. Quand j'étais à Grenoble, il y a quelques années, je faisais partie de l'antichambre d'exorcistes. Et un jour, j'ai vu arriver deux jeunes qui avaient quoi, une vingtaine d'années, et qui étaient complètement affolés, parce qu'ils étaient un groupe de jeunes, et ils s'étaient lancés, mais plus pour s'amuser, dans cette recherche ésotérique. Et ils avaient acheté des bouquins, ils avaient fait quelques pratiques et tout. à première vue, n'était pas... Et puis un jour, il y a un des gars qui s'est suicidé. Et là, ils se sont aperçus que leur petit jeu pour s'amuser, ben, c'était quand même beaucoup plus profond. Et donc voilà, il y a ces trois choses. Pour nous, c'est comblé par le matériel. Bon, on est dans une société de consommation, mais c'est là où nous avons à être vigilants par rapport à notre propre, par déco-protection de la nature. Là, voilà. Bon. Ben, nous avons à regarder un peu comment est-ce que nous utilisons les biens de la Terre. Nous avons par rapport au savoir. Est-ce que le savoir, c'est quelque chose qui est au service de notre humanité ou est-ce que c'est une science dans laquelle on peut s'enfermer? Et puis la dimension spirituelle. Est-ce que notre recherche de Dieu ou d'une spiritualité, ça nous enferme sur nous-mêmes ou est-ce que ça nous ouvre à une autre réalité? Ça, on y reviendra cet après-midi. Le risque, quand on veut combler la faille, c'est que les moyens que l'on prend, eh bien, plus on a l'impression de combler, et plus ça nous creuse notre désir de bonheur. C'est, par exemple, vous avez un exemple qui est Saint-Augustin qui a cherché une bonne partie de sa vie. Et plus il cherchait, et plus il avait ce désir du bonheur, jusqu'au jour où il a rencontré le Christ. Et nous, ben, parfois, peut-être que les gens que vous connaissez, vous avez des gens qui se plongent de plus en plus dans le matériel, jusqu'à sombrer dans le matériel. Et puis, un jour, peut-être il pète un plomb, ou je sais pas quoi, et du coup, ça met tout à zéro, ça remet les compteurs à zéro en se disant « Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» On a ça dans l'Évangile, hein, à travers le jeune homme riche, à travers... Voilà. Que fais-tu de ta vie? Sur quoi repose ta vie? Est-ce que tu veux combler? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une autre dimension? Alors... Ça va, vous arrivez à suivre? Je ne suis pas trop... Alors, on pourrait se dire, mais quelle position est-ce qu'on peut prendre dans tout ça? Et puis la troisième attitude, on ne dit pas dans la phrase du psaume, on ne dit pas qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui nous fera qu'est-ce qui va nous apporter le bonheur? Mais on dit qui nous fera voir, c'est-à-dire une personne. Alors je voudrais simplement vous confier deux images. Et puis vous pourrez... partir après sur les questions. Je ne sais pas combien de temps. Vous voyez, vous aurez beaucoup plus de temps que prévu. Je vais vous laisser deux images. Le Seigneur a beaucoup d'humour parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la marine, c'est-à-dire à l'altitude zéro. Vous voyez ? Et donc j'ai été marin pendant un certain temps. Après, j'ai été ordonné prêtre. Je suis revenu. J'étais en ministère donc à Grenoble, et puis ensuite je suis reparti dans la marine comme aumônier militaire. Et là où le Seigneur a beaucoup d'humour, c'est qu'on m'a demandé d'être aumônier des chasseurs alpins. Et là je me suis retrouvé à 2005. Dans un milieu qui n'est pas forcément mon milieu de prédilection, c'est vrai que je préfère la flotte quand même. Et là, quand je suis allé voir le colonel, puis je lui ai dit, mais moi j'ai l'habitude, quand je suis sur les bateaux, de passer à peu près 3 semaines par mois en mer avec les marins pour vivre avec eux simplement, puis voilà, pour leur offrir l'occasion de prier. Est-ce que dans l'armée de terre, et en particulier là, dans ce régiment, est-ce que c'est possible d'aller sur le terrain avec les gars et les filles? Parce que moi, je ne connais pas du tout les traditions de l'armée de terre. Et le colonel m'a dit, vous pouvez aller où vous voulez à partir du moment où vous n'êtes pas un poids pour les gars. Très bien. Et donc je me suis mis à passer tous les brevets qu'il fallait passer pour pouvoir aller avec les gars et les filles sur le terrain. Donc je me suis retrouvé à passer un brevet de rando à pied. Après, il y avait rando à ski. Bon. Et puis, je ne sais plus trop ce qu'il y avait encore d'autre, mais en tout cas, il y avait aussi escalade. Pour un marin, c'est un peu une expérience nouvelle. Et du coup, la paroi, je l'ai bien regardée, parce que vraiment, quand je l'ai vue, quand je vous donnais mon exemple tout à l'heure de quelqu'un qui est au bas de la montagne, vous vous dites, c'est haut et c'est abrupt. Et le Seigneur a beaucoup d'humour parce que le capitaine qui dirigeait cet exercice d'escalade m'a dit, monsieur l'aumônier, là il y a un petit jeune qui sort de banlieue, qui n'a pas trop confiance en lui, qui, pour lui, bon, il était dans une situation humaine un peu difficile au niveau de sa famille, m'a dit, ça serait bien qu'il puisse réussir son truc. Donc si vous pouviez le prendre avec vous. Du coup, j'ai vu le gars, qui n'était quand même pas très balèze quand même. Mais j'étais un peu plus fin, mais quand même pas trop. Et quand vous faites de l'escalade, il faut faire du rappel. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quelqu'un qui vous assure. Quoi. Donc il avait quand même un peu de mal à faire le poids. Quoi. Du coup, j'ai commencé à dire au gars, voilà, il y a deux solutions, donc on va être ensemble, on va passer un certain temps ensemble, parce qu'il fallait passer le brevet à la fin, là. Et j'ai dit, voilà, on va s'assurer mutuellement, et donc je compte sur toi pour grimper. Mais si je me casse la gueule, je te fais une tête en descendant. Ça met tout de suite dans l'ambiance, mais ça met surtout dans un climat de confiance. Parce que du coup, lui, il savait ce que je pensais. Bon, je l'aimais bien. Hein. Et puis, du coup, on a vécu tout le stage d'escalade ensemble, à notre rythme. Parce que lui, il n'était pas très en confiance, et moi, je n'étais pas très à l'aise non plus. Hein. Et le gars a eu son brevet à la fin. Et c'était très chouette. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois que, par rapport au bonheur, quand vous faites de l'escalade, c'est un peu la même recherche. Parce que du coup, vous allez chercher où mettre vos pieds, où mettre vos mains, pour épouser la paroi. Il ne s'agit pas d'avoir une idée sur l'escalade. Parce que quand vous êtes en plein milieu et que vous êtes coincé, vos idées, vous les abandonnez très vite. Parce que vous vous dites, bon, comment je vais m'en sortir? Donc la première chose, c'est ça, c'est on cherche où mettre les mains. Ou mettre les pieds pour que être en équilibre, en tout cas pour pas se casser les gueules. Et puis la deuxième chose, il y a cette histoire de rappel. C'est-à-dire que l'escalade, on ne la fait pas tout seul, mais on est au moins à deux. À deux pour se soutenir, pour s'assurer, pour... Voilà. Et je pense que la recherche de bonheur, une des choses qui est déjà importante, c'est d'abord de vivre dans le réel, cette histoire de pied, de main dans la paroi. Il n'y a plus besoin d'avoir des théories sur le bonheur, mais voilà, dans ma vie concrète, à quoi est-ce que je suis appelé pour vivre ce bonheur? Et nous sommes 80 ici, et il n'y a pas une solution. C'est pour ça que moi, je ne vous donnerai pas une solution, parce que c'est à chacun de découvrir, en gros, sa voie de bonheur. Comme sa voie d'escalade. Et puis on est assuré, c'est-à-dire que quelque part cette recherche de bonheur, même si on est dans une société très individualiste, où chacun fait un peu sa place, ou en tout cas est tenté de faire sa place au soleil, la recherche du bonheur, elle se fait avec d'autres. Parce que derrière, mais j'y reviendrai cet après-midi, parce que derrière, il y a toujours cette histoire de communion avec Dieu et communion aussi avec l'autre. Et en gros, on ne peut pas vivre dans le bonheur si il y a justement cette division, si on vit dans sa bulle, ou si... Et voilà. Et donc, s'il n'y a pas de voie toute tracée, et c'est pour ça qu'il y a cette question de qui nous fera voir le bonheur, parce que c'est quelque chose à sans cesse remettre sur le métier. Il y a sans cesse à se reposer. Il n'y a pas... Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse simplement cette histoire, cette image d'escalade, avec cette double chose, de chercher ses points d'appui, et puis l'autre, d'être assuré. Alors, être assuré ou assuré? Parce qu'on a fait aussi l'expérience dans l'escalade, c'est-à-dire à un moment de temps, c'est nous qui assurons, et à un autre moment, c'est l'autre qui nous assure. C'est jamais dans un seul sens. Et c'est ensemble que l'on avance, ensemble que l'on monte. Il n'y a pas un des deux, s'il y en a un des deux qui s'arrête, eh bien, on ne peut plus avancer. Donc voilà, c'est cette dimension-là. L'autre image que je vais vous laisser, c'est une image qu'on trouve dans le psaume 1. Le psalmiste donc parle du croyant, de celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Et je vous lis simplement les deux versets du milieu. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit, pour les impies, rien de tel. Il y a quelques années, je suis allé en Terre Sainte et à un moment de temps, nous étions ça a sauté. Et je suis allé faire un pèlerinage en Terre Sainte. Et à un moment donné, nous étions en plein désert. Et puis, au milieu de ces déserts, il y avait simplement un petit canal qui passait près d'une falaise. Et au bord de ce canal, à un certain endroit, il y avait un palmier. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un gramme de terre dans ce coin-là. Et le palmier avait plongé ses racines dans le ruisseau. Et c'était assez extraordinaire de voir au milieu de ce tas de pierres un truc vert. Et c'est là où j'ai pensé à ce psaume. Et je me dis... Peut-être que les uns et les autres, nous pouvons avoir une expérience de désert. Je ne sais pas à vous, mais je rencontre dans mon ministère des hommes ou des femmes qui sont blessés ou qui sont tellement blessés qu'on a l'impression que leur vie, c'est quelque chose de sec, quelque chose d'aride, quelque chose où la vie est difficile. Et je crois que le Seigneur, et ça c'est un regard de foi, je crois que le Seigneur a planté dans ce désert ce palmier, comme il a planté en chacun et chacune d'entre nous une graine de vie. Et que même si tout l'environnement est un désert, il y a au plus profond d'entre nous cette présence de vie qui ne demande qu'à grandir. Qui nous fera voir le bonheur? Pour l'instant, je ne réponds pas à cette question, mais je crois que chacun et chacune d'entre nous avons déjà fait des expériences de bonheur, parce que depuis que nous sommes créés, depuis notre naissance, depuis notre conception, quel que soit ce qui a suivi, nous avons au plus profond d'entre nous cette capacité de vie, cette capacité de vivre ce bonheur. Et c'est simplement les deux images que je voudrais garder avec vous ce matin. C'est vrai que notre vie, elle peut ressembler à une paroi d'escalade. Et nous pouvons répondre de différentes façons. C'est les trois choses que je vous ai dit. Mais certainement, pour vivre ce bonheur, nous n'avons pas à fuir cette falaise ou ce défi, mais ensemble, avec quelqu'un d'autre, avec d'autres au pluriel, nous avons à faire cette expérience d'une cordée, non pas dans les idées, mais dans le réel de notre vie. Et puis la deuxième chose, la deuxième image, c'est ce palmier qui plonge ses racines dans l'eau et qui, au milieu d'un désert, peut être la seule chose verte qui existe dans ce coin. Donc, qui nous fera voir le bonheur? Je voudrais simplement vous inviter à un travail en groupe à partir de trois questions. Mais vous pouvez en trouver d'autres. Vous pouvez... La première des choses, une des choses qui est importante dans notre foi chrétienne, c'est de faire mémoire. Vous savez qu'au cœur de l'Eucharistie, il y a le mémorial de la scène du Seigneur, parce qu'on se rappelle l'événement fondateur de notre foi en Christ. C'est parce qu'il s'est donné jusqu'au bout que nous sommes là et qu'il a fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Une des choses qui est importante dans notre vie de chrétien, c'est de pouvoir faire l'expérience du mémorial. L'importance de se souvenir, pas simplement de picorer à droite à gauche dans notre vie. Parfois, on a l'impression qu'il y a des vies où c'est un peu comme un bateau qui n'aurait pas de gouvernail. Et du coup, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, suivant les courants, suivant les vents. Et de temps en temps, c'est important de faire mémoire. Alors, je vous invite à faire mémoire de trois choses, dont deux plus une. La première, quand vous regardez votre vie, peut-être qu'il y a un événement où justement vous avez vécu le bonheur. Vous. Alors je vous invite à en témoigner entre vous dans le groupe de partage. Mais la deuxième question, c'est plus pour s'ouvrir le regard. Et là aussi, en regardant votre vie, est-ce que vous pouvez faire mémoire de quelqu'un autour de vous qui a fait une expérience de bonheur? Peut-être une expérience que vous ne pouvez pas faire. Ce que j'en ai comme témoignage hier soir, c'est de dire, moi par exemple, il y a un an et demi, j'ai marié deux personnes qui étaient déjà d'un âge certain. Et donc il y avait des questions pour avoir un enfant. Et là j'ai appris il y a un mois et demi, qu'ils attendaient un enfant. Et je les ai rencontrés la semaine dernière, et c'est vrai qu'ils m'ont témoigné d'un bonheur auquel ils ne pensaient même pas il y a quelque temps. Simplement pour ouvrir notre regard, pas simplement rester sur nous-mêmes. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire mémoire de quelqu'un autour de vous qui a vécu une expérience de bonheur? Et puis la troisième chose, c'est peut-être de vous dire les uns aux autres, qu'est-ce qui peut empêcher le bonheur? C'est moins rigolo comme question, mais c'est important aussi de pouvoir se le dire. Ça dépend si on veut enterrer ou nier, ou au contraire, est-ce que on veut... Ça vous va? Je pense qu'ils dorment tous déjà.
Non.
Ça va? Alors, simplement ce que j'ai dit, donc, c'est si par exemple dans votre... je ne sais pas si on va redonner des consignes. Oui, hein. Voilà. Simplement, bon, ce que vous dites, pour moi c'est important, ce que vous dites dans vos groupes reste dans le groupe. Par contre, peut-être que dans ce que vous allez discuter, il y a peut-être des questions particulières. Donc ce que je vous demande simplement, c'est que par exemple à la fin de votre groupe, si vous avez une question, vous n'êtes pas obligé, hein, s'il y a une question plus particulière qui touche votre groupe, de me le marquer sur un papier et de me donner ce papier au moment du repas, pour que je puisse avoir le temps d'y réfléchir. Ça va ? Ah ben oui, il n'y a pas de micro.